Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 12h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. Et l'information jusqu'à 13h, c'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Après les élèves hier, les ministres faisaient leur rentrée ce matin avec au programme un mois de janvier qui s'annonce musclé. Première épreuve de taille, la réforme des retraites. On y reviendra évidemment longuement dans cette édition. On s'arrêtera aussi dans quelques minutes sur cette intelligence artificielle qui risque de faire beaucoup parler et qui inquiète déjà nombre de professeurs. ChatGPT, c'est son nom. Vous lui posez une question et en quelques secondes, vous vous retrouvez avec un exposé clé en main. C'est assez bluffant. Derrière tout ça, il y a encore Elon Musk. On vous dira tout dans une dizaine de minutes. À suivre également dans cette édition, le parquet de Grenoble qui lance sa chaîne YouTube et les critiques plus du tout voilées en Russie après la frappe ukrainienne qui a tué 89 soldats russes d'après Moscou.
RTL, toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL Midi, un jour chez vous en France.
Et aujourd'hui, on part à Borgel dans le Nord où la boulangerie n'ouvre plus que le week-end. La semaine, le rideau reste baissé. La faute au prix de l'électricité. À 12h20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Comment souhaiter la bonne année, les vœux ringards ou pas? On posera la question à Jérémy Combe.
C'est une bonne question.
Mais c'est pour ça qu'on se la pose, Pascal, on est là.
On a jusqu'au 31 janvier, hein, je crois, pour souhaiter les vœux.
C'est aussi ce que je crois, mais on va vérifier avec l'expert Jérémy Combe, l'auteur du livre « Oser les bonnes manières pour assurer partout, en toutes circonstances ». Enfin, juste avant 13h, LVT midi, moi j'ai de la chance, je l'ai trouvé, mon associé. Pour les autres, rendez-vous sur M6, ce soir, saison 3 de l'émission « Qui veut être mon associé ?». On sera avec l'un de ceux qui investissent aux côtés des candidats. Jean-Pierre Nadir sera notre invité.
Avez-vous déjà envoyé des SMS pour souhaiter la bonne année? C'est la question du jour, je crois.
Sur notre site rtl.fr, sachez, et ça c'est une info RTL, que vous êtes en tout cas de moins en moins nombreux à le faire, une baisse de près de 13% cette année.
Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole. On parlera évidemment de Pantin qui s'appellera bientôt Pantine. On dirait une chanson de Chantal Goya, Pantin Pantine.
Alors, remettez-vous, Peggy, parce que je sais que ça démarre fort avec Pascal aujourd'hui.
Ah, toujours, toujours.
Bonjour, Peggy Broche. Donc, c'est vous qui présentez la météo aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi?
Eh bien, un temps bien gris encore au nord et humide, et toujours une grande douceur.
Merci, Peggy. La météo complète à la fin du journal.
RTL Midi.
Ça y est, c'est la rentrée pour le gouvernement. Premier conseil des ministres ce matin à l'Élysée pour l'équipe d'Elisabeth Borne qui se prépare à un début d'année musclé avec en point d'orgue évidemment la réforme des retraites. Alors on ne sait pas si c'est pour se donner du courage, mais Thomas Desprez, les ministres sont arrivés groupés et en musique ce matin dans la cour de l'Élysée.
Oui, c'est une tradition hein, Céline, pour ce premier conseil de l'année. Elisabeth Borne et ses ministres à pied, dossier sous le bras, qui débarquent tout sourire au palais présidentiel. Une jolie photo de famille, un objectif, montrer un message de sérénité et d'unité face à l'année qui s'annonce. Et la mise en scène ce matin autour d'Elisabeth Borne n'avait rien d'un hasard. À sa gauche, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, en première ligne sur le dossier des retraites. Le ministre des Armées, tout juste de retour de Kiev. À sa droite, Gérald Darmanin, en pleine préparation d'un projet de loi pour lutter contre l'immigration illégale. Des dossiers chauds qui s'accumulent. On pourrait ajouter aussi la crise de l'énergie, les boulangers, la situation à l'hôpital. Bref, une rentrée en eau trouble pour le gouvernement. Message d'Elisabeth Borne à ses troupes tout à l'heure, il faudra résister au vent contraire. Emmanuel Macron lui a demandé à ses ministres de l'audace et surtout de rester à l'écoute des préoccupations des Français.
Thomas Desprez à l'Élysée pour RTL. Thomas, vous parliez de tout ce qui ne va pas trop sur le front politique. L'exécutif se veut en revanche rassurant du côté de l'énergie. La menace de coupure de courant cet hiver semble s'écarter d'après le porte-parole Olivier Véran.
D'un autre côté, il y a 20 degrés. Donc, effectivement, le chauffage, peut-être, ou l'absence de chauffage, permet de faire des économies. Le gouvernement qui présentera demain le plan d'action faisant suite aux états généraux de la justice.
Et la justice, c'est aussi cette initiative du parquet de Grenoble pour rendre justement la justice plus accessible. Il a décidé de lancer sa chaîne YouTube à l'ENAF. Alors, on parle souvent ici, notamment, du manque de moyens de la justice. Eh bien, là, on est, il faut le dire, sur une initiative assez artisanale.
Oui, c'est pas du Tarantino, hein. C'est un plan fixe de 27 minutes devant une austère bibliothèque. Le procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant, et une substitute, Anne Lostis, détaillent les avancées qu'a permis un groupe de travail mis en place sur les violences sexuelles.
on a donné aux enquêteurs une trame très précise des questions qui doivent être posées aux victimes. Si l'enquête est bien faite dès le début, nous avons plus de chances d'aboutir à des poursuites.
C'est en réalité sur le terrain de la preuve que souvent ces enquêtes échouent.
C'est très clair, très pédagogique. Éric Vaillant y pense à cette chaîne YouTube depuis des années.
Je sais que certains sujets vont d'abord intéresser les étudiants en droit, mais vraiment j'espère que ça ira bien au-delà. Notre prochain épisode, j'espère qu'on y verra donc des délégués du procureur. J'aimerais bien qu'on fasse un sujet sur le greffe de la permanence du parquet. J'ai plein d'idées. Mais il m'a fallu beaucoup de temps déjà pour convaincre les collègues que c'était pas donc une lubie et une drôle d'idée. Et si nous on fait pas savoir qu'on fait donc un certain nombre de choses qui sont plutôt pas mal, personne ne le fera savoir à notre place.
Et Éric Vaillant espère publier un épisode par mois.
Anne Le Hénaff du service police justice de RTL. Le parquet de Paris ouvre une enquête nationale après les menaces d'attentats à la bombe qui ont provoqué l'évacuation d'une vingtaine d'établissements scolaires hier et lundi. Des menaces sans fondement mais relayées par l'ENT, le portail internet qui relie élèves, parents et enseignants. Portail internet qui avait été piraté.
Partons à l'étranger. Le bilan de la frappe de Makhivka est désormais de 89 soldats russes tués d'après Moscou.
Et un chiffre très largement sous-estimé, hein, selon certains. Mais pour une fois, depuis le début du conflit, l'état-major russe reconnaît là une grave erreur, Sophie Jousselin.
Oui, ce matin, à la télévision russe, sur la chaîne d'information Rassia 24, ce militaire reconnaissait une faute.
La principale cause, c'est l'utilisation massive de téléphones portables malgré l'interdiction. C'est ce qui a permis aux forces ennemies de localiser nos militaires. Des mesures seront prises pour empêcher que de tels incidents se reproduisent. À la suite de l'enquête, les responsables seront sanctionnés.
Mais d'autres voix s'élèvent en Russie pour critiquer le commandement militaire. C'est le cas d'Alexandre Gilin, un colonel de réserve de l'armée russe, qui s'exprime sur les réseaux sociaux.
On a installé les soldats juste à côté d'un dépôt de munitions. C'est un crime. Qui peut défendre ça? Selon la loi martiale, les responsables doivent être fusillés immédiatement.
Et la télé russe ne cache pas non plus les rassemblements de familles touchées par cette frappe. Hier à Samara, Yekaterina Kolotovkina, présidente d'une association de familles de soldats, a pris la parole, même si ses critiques, vous allez l'entendre, ne s'adressent pas directement au pouvoir russe.
Mes amis, Samara n'a pas dormi depuis 3 jours. Ce qui nous arrive est effrayant. Mais l'Occident s'est rallié contre nous pour nous détruire. Mais nos maris, nos fils ne laisseront pas cela se produire.
Et officieusement, on s'attend à plusieurs centaines de morts suite à ces frappes.
Sophie Jousselin du service étranger de RTL, merci. La météo chez nous en France, on vous retrouve à Peggy Broche, ça reste gris.
Ça reste gris sur une bonne partie du pays, en effet, Céline, avec du vent et de faibles pluies. Alors, c'est vraiment pas grand-chose, hein, mais il peut y avoir, à un moment donné, quelques petites pluies éparses. Alors, par endroit, par moment, c'est pas pour tout le monde, mais voilà, prenez le parapluie, ça peut servir. Ça concerne une bonne moitié nord, entre la Bretagne, en allant jusqu'au Poitou et en remontant vers le Limousin et le nord de l'Alsace, avec du vent. Plus au sud, entre le nord de l'Aquitaine et la Franche-Comté, là, c'est un ciel plutôt gris. Et pour le soleil, il faut aller entre les Landes, la région Toulousaine, les Alpes, la région PACA et la Corse où le ciel est variable. Tout ça sous des températures qui sont encore très douces et largement au-dessus des normales. De 8 degrés à Montauban jusqu'à 19 cet après-midi à Perpignan, 18 à Ajaccio, 16 à Montpellier, 15 à Nîmes, 14 degrés à Paris et Nantes, 13 à Brest, 12 à Bourges, 11 à Lyon et 10 à Langres.
Merci Peggy.
RTL Midi, un jour chez vous.
C'est le moment effectivement de se balader en France, de voir la vie au quotidien et notamment ce qui se passe avec les boulangeries. C'est un drame possible.
Et aujourd'hui, on va voir ça à Bourgueil, dans le Nord. Bonjour Franck Hanson.
Bonjour Céline et Pascal, bonjour à tous.
Bourgueil, où face à l'explosion des prix de l'énergie, la boulangerie du village a dû se résoudre à baisser le rideau toute la semaine pour n'ouvrir que le week-end.
Oui, et c'est le deuxième jour de fermeture. Aujourd'hui, pas de pain ni d'odeur de viennoiserie dans la boutique. C'était donc la seule solution pour Véronique Capillier, installée ici depuis 27 ans avec son mari, face à l'explosion des factures d'électricité qui ont été multipliées par 3,5.
C'est vide, totalement vide, une persienne baissée, des comptoirs vides. C'est très compliqué moralement. Disons que c'était la dernière des solutions envisagées avant de faire une cessation d'activité trop rapide. Bah, la situation, c'est que si j'ouvre tous les jours, on a fait un calcul, à la place de payer 1 890 €, qui était ma facture de l'année dernière du mois de janvier, on passe à 6 700 €. Ça nous fait 260 € d'électricité par jour. Je ne peux déjà pas payer cette facture, rien que d'EDF.
Et bien sûr, il faut rajouter aussi la hausse des matières premières. La boulangère s'est résolue à augmenter de 15 centimes ses pains, mais cela ne sera pas suffisant. Dur pour le moral aussi, hein, pour Emmanuel, l'artisan qui se réveille toujours aussitôt. Il commence doucement à préparer sa pâte pour les galettes de dimanche.
Il faut faire du potage, oui. On prépare les commandes pour le week-end. Bon, on essaie de tenir, bah, disons pour les clients, bon, après pour nous, pour le moral, parce que bon, c'est pas trop évident. Maintenant, on est obligé de suivre l'événement comme ça. On subit.
Et traditionnellement, ces commerçants qui ont plusieurs enfants vendent toujours mieux le week-end, en plus avec l'épiphanie cette fois. Mais ils ne sont pas sûrs de tenir toute l'année.
Et Martial Liu qui vient d'entrer dans ce studio, je maintiens que la hausse de l'électricité est absolument incompréhensible pour les auditeurs. Les annonces du gouvernement hier ne les ont pas vraiment convaincus, ces boulangers.
Non, ils ont bien écouté. Pourtant, même si ces aides ne sont pas à négliger, ces artisans commerçants restent méfiants.
Désolé, mais ça va ne servir strictement à rien. Parce que les charges, s'ils parlent de nos impôts et de nos taxes, on devra quand même les payer. Moi, mes impôts et taxes, je sais les payer. Je ne sais juste pas payer ma facture d'électricité. C'est vrai que Bruno Le Maire et notre ministre ont parlé d'aide. Malheureusement, il va falloir que j'attende pour savoir de combien je vais bénéficier de faire mon chiffre d'affaires du mois de janvier. Et c'est ça les risques. Malheureusement, ça va fondre comme neige au soleil. Hein. La Bourgeloise, bonjour.
Et même en ouvrant que 8 jours sur un mois, la facture d'énergie sera encore plus lourde qu'un mois normal l'an dernier.
Et la boulangerie, Franck, dans le village, c'est tout un symbole. Comment on réagit sur place à cette fermeture en semaine ?
Ben, beaucoup de soutien, des appels au téléphone qui continuent, vous l'entendiez, hein, car la Bourgeloise continue de prendre les commandes. Des habitants ont même parlé d'une cagnotte. Depuis 27 ans, Véronique Capillier a vu des générations de clients à la sortie du village. La boulangerie, c'est comme un repère.
Ça manque et puis c'était de proximité. Nous, les enfants, ils y allaient le matin. C'est vrai que du coup, on va devoir prendre la voiture pour aller chercher le pain le matin. Donc, c'est pas cool. Déjà, nous, en tant que particuliers, on voit que nos charges augmentent et on a reçu récemment notre échéancier et une boulangerie. C'est vrai qu'on imagine que ça va être compliqué pour eux. Quoi. On va essayer d'y aller du coup le week-end et puis essayer de les soutenir au maximum comme on peut. Ouais. Mais c'est vrai que ça va être compliqué.
Le conseil municipal devrait aussi discuter d'une éventuelle subvention. Au moins ce week-end, on pourra célébrer les rois à Bourguel, mais avec beaucoup d'interrogations sur l'avenir.
Merci beaucoup Franck Hampson dans le Nord. Donc pour
je disais que Martial Liu était là. Dans une seconde, on va parler avec lui du ChatGPT, qui est un terme anglais pour un outil de conversation avec une intelligence artificielle. Mais cette dame, cette boulangère qui dit que sa facture mensuelle passe de 1300 euros à 6000 euros, mais c'est incompréhensible. Facture d'électricité.
C'est vrai que c'est très compliqué évidemment à monter. Elle a négocié des tarifs à un moment où c'était très très bas. Ce sont des tarifs en général pluriannuels, donc j'imagine que c'est ce qui s'est passé. Elle a négocié il y a 3 ans quand c'était très bas, et évidemment depuis l'Ukraine, ça a flambé. Et là, elle prend d'un coup la hausse que l'on vit depuis quelques mois.
Et donc, elle ferme du lundi au vendredi. Il est 12h12, la pause, et nous revenons avec Martial, précisément.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
C'est un nom que vous avez peut-être déjà entendu et avec lequel il va falloir vous familiariser, le ChatGPT, un terme anglais pour un outil de conversation avec une intelligence artificielle capable d'écrire pour vous et de répondre à toutes vos questions ou presque. Bonjour Martial Liu.
Bonjour.
Vous êtes le chef du service économie ici à RTL. Alors, vous nous parliez déjà dans votre chronique matinale de cet outil. D'abord, expliquez-nous, c'est quoi ChatGPT, ça sert à quoi ?
Ça sert à écrire à votre place, donc un article de presse pour un journaliste, un exposé d'histoire géo, une dissertation de philo pour un étudiant, un acte notarié pour le clerc de notaire, un dossier médical pour la secrétaire du médecin. Et ce sera un texte original, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas un copier-coller de Wikipédia. C'est quelque chose qui a été construit en fonction des indications que vous donnez à la machine.
Sur n'importe quel sujet.
Sur n'importe quel sujet. C'est-à-dire que là, vous téléchargez cette application, elle coûte 9,99€ par semaine, une cinquantaine d'euros par an, et vous avez ce petit assistant qui vous dit qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous, et là, vous donnez
donc
un texte.
Je dis un texte sur Martial Liu, par
Absolument,
exemple, etc.
Pouvez,
il va prendre toutes vos informations sur vous, et il va faire quelque chose.
Jusqu'en 2021, après, il ne sait pas ce que j'ai fait, parce qu'il arrête ses connaissances à fin 2021 pour l'instant, et donc il va, si vous lui dites, dites-moi si Martial Liu est un excellent journaliste économique, il va rechercher sur tout ce qui se dit sur moi sur le web et il va en faire un texte qui pourra être effectivement proposé ensuite à la lecture.
On va évidemment pas prendre le risque de faire ce test.
Non, je
mais...
préfère pas.
moins de risques avec moi. Une autre question et peut-être c'est plus pas... concernant aussi, désolé pour votre ego Martial, mais par exemple si je demande à ChatGPT comment soigner un rhume, question de saison?
Ah bah alors là, très très facile, vous tapez ça dans l'assistant et vous demandez comment soigner un rhume, et là en 10 secondes,
10 secondes.
10 secondes. Il vous fait, pour soigner un rhume, il est important de rester hydraté en buvant beaucoup d'eau, etc. Bon, c'est pas très compliqué pour lui. Là.
Mais ça, c'est personnel. C'est-à-dire que de 5 minutes plus tard, ce ne sera pas le même texte.
C'est-à-dire que si vous le demandez, vous, puisqu'il va se baser sur vos historiques, votre façon d'écrire, ouais, il va l'écrire différemment. Et même si moi, je veux quelque chose de plus précis, si je lui dis, je voudrais une analyse plus scientifique de la guérison des rhumes, il va refaire son texte en fonction de l'indication que je demande.
Et quelque chose de plus poussé, comme l'analyse des Misérables de Victor Hugo?
Eh ben, analyse des Misérables, voilà, de Victor Hugo, je dis sur deux pages, comme ça, c'est à peu près le format pour un
Parce
un
que vous pouvez choisir le format de la réponse.
Bien sûr, court, moyen, long.
Non, mais c'est extraordinaire,
voilà,
votre truc.
Hop, ça tourne, et ben voilà. Les Misérables, c'est un roman historique écrit par Victor Hugo. Là, vous allez dire, c'est pas non plus.
Mais il ne faut pas dire ça à nos patrons parce qu'ils vont virer tous les journalistes.
Hein. Bah oui, non, mais c'est vrai.
Notre chance, c'est qu'on fait de la radio et que ça ne parle pas pour l'instant.
Alors, vous avez des synthétiseurs vocaux, à mon avis, ça viendra.
Oui.
Non, mais là où c'est intéressant, c'est que ça va.
Je suis un synthétiseur vocal.
Non, mais ce qui est formidable, c'est que. Formidable. À la fois, ça fait peur, évidemment, ce qu'on est en train de voir, mais ça veut dire que ça va industrialiser des tâches ingrates. C'est-à-dire que lorsque vous avez des commentaires, des résultats sportifs, par exemple, sur une soirée de Ligue 1, l'ordinateur fait ça très bien, de faire la synthèse, Saint-Étienne a battu telle équipe, etc., et faire une petite analyse. Et ce qui
il
n'y
a
va...
pas de petite analyse.
Il n'y a pas de petite analyse, il y a des grandes analyses. Et ben, lorsqu'il va falloir donner son opinion, son avis, écrire quelque chose de plus personnalisé, là, l'ordinateur en est incapable. Il vous le dit d'ailleurs. Il dit, je ne suis pas en mesure de donner mon opinion, je ne donne que des faits.
D'accord.
Donc, ça donne un tout.
Mais on ne peut pas se faire piéger d'une certaine manière. Celui qui va rendre ça à son professeur, le professeur ne saura pas qu'il a triché.
Alors ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire que lorsque vous faites cet exercice-là, parce que là, dans Victor Hugo, moi, j'ai demandé qu'il affine un peu, parce que bon, on se dit, Victor Hugo, ok, les Misérables, ça peut se trouver facilement. Je lui ai dit, mais sois plus précis sur le personnage de Cosette et les relations avec les Thénardier, ce que ça dit des relations sociales au 19e siècle. Eh bien, il le fait. Cette relation entre les Thénardier et Cosette reflète les inégalités sociales du 19e siècle, où même les plus jeunes et les plus vulnérables des enfants étaient soumis à la domination d'autres personnes. C'est du français parfait.
Je suis d'accord avec vous, je suis en train de lire ça, c'est absolument sidérant.
Et donc, du coup, vous avez effectivement la question 1 de quel est l'intérêt de la culture générale dans l'éducation, puisque finalement la machine le sort, pensez peut-être d'être un peu humain par rapport à une machine, mais quelle est la notation pour un enseignant? Comment est-ce qu'il évalue les connaissances? À part le faire en direct, en présentiel dans la classe, ça devient compliqué. Et l'enseignant lui-même est challengé par la machine. Il va savoir plus de choses que lui.
Vous êtes un ami, Eric Silvestro, notre ami, qui dit il est sympa, il remplace les journalistes sportifs par son appareil, mais pas les analyses économiques, encore plus ingrates que les résultats sportifs. Il a raison. Vous voulez nous virer les journalistes sportifs, mais il n'a pas raison.
Dans le lot. Non, mais c'est ce qu'on appelle Schumpeter.
Non, mais c'est sidérant. Rappelez l'appli, parce que ça, rappelez-la.
ChatGPT.
Alors, les gens ne savent pas ce que c'est qu'une appli tous.
Une application, c'est...
Ils ne savent pas tous. Il y a des gens, ils ne savent pas comment ça marche.
Si vous avez un smartphone.
Voilà. Par exemple, sur l'ordinateur, ça ne marche pas.
Si, vous pouvez le télécharger aussi sur un ordinateur.
Et vous l'avez dit, c'est payant.
Oui.
Est-ce qu'on sait qui est derrière tout ça? Parce que c'est bien beau de donner une multitude d'infos, mais est-ce qu'il y a un risque d'orientation politique, peut-être aussi?
Si je vous dis qui pourrait être derrière, à votre avis?
Ah, c'est Monsieur Musk.
Elon Musk. Elon Musk.
9 euros, ça coûte quand même.
Oui, c'est par semaine. Mais surtout, là où c'est important, et même les créateurs en ont conscience, il faut maîtriser ça, parce que vous pouvez avoir des fake news. Là l'ordinateur, si vous donnez des mauvaises indications à cette intelligence artificielle, elle vous fait un texte parfait de complotiste, sans qu'on s'en rende compte et sans qu'on puisse savoir qui est derrière. Un ordinateur ou un humain, c'est indétectable.
En 10 secondes en plus.
En 10-15 secondes, oui.
Merci beaucoup, Martial. Je ne sais pas si c'est vraiment réjouissant.
J'ai un journal à aller écrire, là, je vous laisse.
Non, mais c'est...
Ça sera écrit en 10 secondes.
Ouais,
non, mais justement, tu n'as plus besoin. On peut arriver au dernier moment.
C'est ça.
Certains le font, d'ailleurs.
Non, mais c'est les canuts lyonnais avec la machine-outil au 19e siècle. C'est Gutenberg avec l'imprimerie au 15e siècle qui remplace les moines copistes.
Bon, écoutez, il est 12h20, on va marquer une pause, et ensuite, nous parlerons de quoi? De votre vie, car l'info, c'est votre vie.
C'est ça, comment envoyer ses vœux? Alors, on aurait pu la poser question à ChatGPT, et c'est Jérémy Combe, l'auteur de Oser les bonnes manières pour assurer partout en toutes circonstances, qui viendra plutôt y répondre. À tout de suite, donc.
À tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi jusqu'à 13h. RTL Midi, votre vie.
Votre vie, oui, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui...
Bonne année !
Et oui, bonne année. Alors comment se le souhaiter cette bonne année? RTL vous le révélait ce matin, a priori pas par SMS. Le nombre de textos envoyés dans la nuit de la Saint-Sylvestre a baissé de près de 13%. Ringard les vœux par texto. On va poser la question à notre invité. Bonjour Jérémy Combe.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur du livre « Oser les bonnes manières pour assurer partout, en toutes circonstances ». C'est chez Michel Lafond. Adresser ses vœux par texto, d'abord c'est oser les bonnes manières comme vous dites ou pas?
C'est oser être moderne et vivre en 2023 quand même. C'est-à-dire que les vœux par SMS, ça a moins de fond que des vœux écrits, puisqu'on prend du temps, on cherche les mots qu'on va employer, et c'est plus personnalisé. Il n'y a rien de pire que de recevoir un SMS quand on a conscience qu'on fait partie d'une liste de 20 destinataires. En revanche, le fait de recevoir comme un SMS, il y a un côté un peu bienveillant et sympathique de la personne qui vous l'envoie.
Mais personne n'envoie plus ses vœux par carte.
Mais si, mon cher Pascal, on peut encore envoyer ses vœux par carte. Les grandes maisons, par exemple, envoient encore leurs vœux par carte. Ça reste quelque chose de différent.
Qu'est-ce que vous appelez les grandes maisons?
Des grandes enseignes, par exemple, de l'avenue Montaigne, envoient encore leurs vœux par carte. Des grands chefs d'entreprise ou des entreprises aussi qui veulent envoyer des cadeaux à leurs clients joignent un petit mot écrit. Et le côté épistolaire fait que c'est plus rare, donc c'est plus apprécié. Et le but, c'est que la carte reste sur votre bureau et donc on pense à la personne et pour des marques ou des sociétés, c'est une façon d'être présent.
Mais c'est pas suranné, ringard d'envoyer ses vœux comme ça par écrit aujourd'hui?
Ça peut l'être, mais c'est aussi comme tous les codes à ce moment-là qui régissent notre quotidien. À partir du moment où on les utilise, ça dépend comment on le fait, on peut être moderne et envoyer une carte de vœux.
Alors moi je vais vous lire des vœux que j'ai reçus et vous allez me dire si c'est bien ou pas. Je dirais pas qui, hein. Aucun carton rouge, que des cartons roses et verts, signe d'amour, de respect, de tolérance. Qui vous aime et vous souhaite une très belle année. C'est bien ça, c'est original, aucun carton rouge, que des cartons roses et verts, c'est sympa ou c'est pas bien?
Ça dépend de la personne qui vous l'envoie, visiblement elle doit être dans le milieu du sport, j'imagine.
Pas du tout,
alors c'est un champ lexical qu'elle a choisi, c'est osé.
Et qu'est-ce qu'il faut dire dans les vœux?
C'est surtout ce qu'on doit pas dire, c'est-à-dire que si jamais une personne est malade, on va pas lui souhaiter des vœux de santé. Si jamais en revanche une personne attend un enfant, on peut lui dire cette année est une année plutôt joyeuse avec l'arrivée de ce bébé, etc. On ne met pas l'accent sur ce qui pourrait faire de la peine, blesser ou qui est un moment de vie pas très agréable. Non, mais
j'entends.
Il y a des choses qu'il faut absolument faire. Vous dites attention à l'écueil de... Et la santé surtout, par exemple. Ça, c'est la phrase à laquelle il faut faire attention.
C'est toujours un peu risqué parce que la personne à laquelle on va s'adresser, on ne sait pas si elle ne vient pas d'apprendre qu'elle a une maladie. Donc c'est un peu... En même temps, ce qu'il faut comprendre dans les vœux, c'est que le fait de les souhaiter, c'est déjà sympathique.
D'accord. Alors, par exemple, Régis Ravanas, qui est le président d'RTL, et là, on parle des vœux professionnels. Si on lui écrit « Cher Régis, j'espère que tu penseras à moi cette année pour l'augmentation », c'est pas terrible.
C'est moyen, sauf si jamais vous êtes très très proche. Non, il faut faire des vœux un peu plus polissés, c'est-à-dire qu'on souhaite une année douce et tranquille, une année joyeuse et festive, une année avec des succès professionnels et des joies en famille. Enfin, vous voyez, on reste...
Il faut rester convenu. C'est pas le moment, dans les vœux professionnels, de faire passer des messages.
Exactement. Donc. On va pas gérer une situation conflictuelle pendant son message de vœux. Et surtout, si jamais vous faites des vœux... on écrit toujours, quoi qu'il arrive, les vœux avec de l'encre noire ou de l'encre bleue. On laisse l'encre violette, rose ou jaune pour vos enfants ou des personnes qui sont plus jeunes pour leur carte d'anniversaire. C'est-à-dire qu'on présente ses vœux. Et un truc qui est très rigolo, c'est que quand on envoie ses vœux avec du papier à lettres, on prend une enveloppe, vous savez, il y a des enveloppes longues et puis il y a des enveloppes plus carrées qui ne sont pas vraiment carrées. Et bien les enveloppes plus carrées sont réservées aux échanges justement intimes. Personnel, alors que les enveloppes rectangulaires, ce sont les enveloppes qui sont réservées aux échanges professionnels. Et d'ailleurs, on ne plie pas les feuilles de la même façon.
Vous êtes la nouvelle Nadine de Rothschild.
Merci, mon cher Pascal, de l'avoir reconnue.
Jérémy, c'est les bonnes manières. Mais alors, si on est un peu sec, très belle, heureuse et très belle, si vous dites simplement très belle année, Pascal.
C'est-à-dire que c'est vous êtes débarrassé d'une petite.
Ouais, on fait pas ça. Ça doit être
obligation.
C'est combien de lignes minimum?
Ça dépend. Si c'est un SMS ou si c'est par écrit. Ou par mail même.
Par SMS, puisque beaucoup de gens sont SMS. Est-ce qu'il faut un minimum de lignes?
Il faut quand même un minimum de lignes pour pas que ça fasse justement j'expédie mes SMS à la chaîne.
Mettre le prénom?
Ben c'est quand même mieux.
Oui.
C'est parce que ça prouve que vous n'avez pas forcément fait un copier-coller. Parce que globalement, en changeant juste le cher, C-H-E-R, ou au féminin, on peut très vite
finalement, faire un petit copier-coller. Tout ce que vous nous dites, on le fait. Quoi. On le sait déjà un peu.
J'ai pas reçu vos vœux, je peux pas vous le dire.
On a jusqu'à quand, justement, pour envoyer ces vœux de
Alors,
de
les vœux, c'est du 15 décembre au 31 janvier.
15 décembre.
On peut commencer à souhaiter des vœux, justement, pour les fêtes de fin d'année et de Noël. Donc, vous pouvez fêter vos vœux du 15 décembre. Et normalement, jamais après le 31 janvier, mais si jamais vous en recevez le 30 ou le 31 et que vous voulez y répondre, antidaté. C'est une petite combine.
Alors, je vous avais retenu, Pascal, pas d'enveloppe rectangulaire, plutôt ça, à la main, encre noire ou bleue.
Alors oui, on reçoit quand même, il y avait un célèbre présentateur de télévision qui écrivait toujours à l'encre violette. Vous avez peut-être reçu en son temps ses voeux.
Voilà.
Et je ne citerai pas, je ne dirai pas qui c'est, mais il écrivait
toujours. Vous faites
toujours
tellement de mystères entre les voeux que vous nous citez, la couleur de l'encre.
Et certains écrivains utilisent aussi le bleu Floride, le bleu outre-mer.
Là, pour le coup, ça peut être une signature. C'est comme ceux qui portent une écharpe tout le temps, Geneviève de Fontenay qui porte un chapeau tout le temps. Eh bien, la couleur de son encre, si ça devient quelque chose qui vous permet d'être reconnaissable, c'est une signature, donc c'est un peu différent.
Et si jamais vous recevez les vœux de Pascal, je peux déjà vous dire que l'encre ne sera ni noire, ni bleu foncé, parce qu'il a toujours les mêmes stylos dans la veste de son costume.
Attention,
non,
en direct.
C'est vrai, j'ai...
Un peu turquoise.
Turquoise, là, c'est...
Voilà, c'est
un petit côté girly qui lui va bien.
Girly, c'est le mot qui combien. Ça m'a fait plaisir. Mais vous pourriez venir régulièrement pour les bonnes manières. C'est une bonne idée, les bonnes manières.
C'est très gentil, merci.
12h28, à tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro.
RTL midi jusqu'à 13h. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL midi, il est 12h30.
RTL midi, le 12h30, Céline Landreau et Pascal Pro.
Et c'est donc l'heure de votre grande édition de la mi-journée, Céline.
La section cyber du parquet de Paris ouvre une enquête après le piratage de l'ENT, le portail internet bien connu des élèves, parents et enseignants, puisqu'il leur permet de communiquer. Une fausse alerte à la bombe qui a été relayée a provoqué l'évacuation d'une vingtaine d'établissements scolaires en début de semaine. On y revient dès le début de ce journal. Dans cette édition également, la rentrée du gouvernement, premier conseil des ministres 2023 ce matin, rentrée marquée évidemment par la réforme des retraites, c'est le dossier chaud du moment. On y reviendra longuement après le journal avec le service politique. L'exécutif étrillé par ailleurs sur sa gestion de la crise Covid par un rapport de l'IGAS. Les tout petits de plus en plus souvent victimes d'intoxication au cannabis. Les autorités de santé s'inquiètent aux États-Unis, on vous expliquera pourquoi. Et puis Deschamps à la tête des Bleus, a priori ça va continuer. Mais pour combien de temps? C'est toute la question du moment. On y reviendra à la fin du journal. Juste avant 13h, votre rendez-vous culture LVT Midi. Aujourd'hui, on va parler télé avec le grand retour de l'émission Qui veut être mon associé ce soir sur M6. Notre invité, ce sera Jean-Pierre Nadir, l'un de ceux qui investissent aux côtés de ces candidats entrepreneurs. La question du jour sur notre site rtl.fr. On en parlait il y a quelques instants. Avez-vous envoyé des SMS pour souhaiter la bonne année, c'est de moins en moins en vogue. C'était l'information RTL de ce matin. Moins 13% de SMS envoyés durant la nuit de la Saint-Sylvestre.
On évoquera évidemment tous ces sujets à partir de 13h dans les auditeurs en la parole. 32-10 pour dialoguer jusqu'à 14h30. On pourra notamment parler de la retraite et l'âge idéal, selon vous, pour la prendre.
Maintenant.
Maintenant, vous avez dit.
Non, j'exagère. Vous savez bien.
Mais vous parliez de qui?
Je sais pas. Peggy Broch. Oui.
C'est agréable. Franchement, ce début d'année, vraiment.
Je vous adore, Pascal. La météo pour cet après-midi.
Eh ben, automnale sur une bonne moitié nord et printanière sur l'extrême sud.
Merci, la météo complète à la fin du journal.
Jusqu'à 13h. RTL midi.
Une vingtaine d'établissements scolaires évacués hier et lundi à cause de menaces d'attentats à la bombe, des menaces relayées sur l'ENT, le portail internet qui relie élèves, parents et enseignants. C'est d'ailleurs pour ça que la section cyber du parquet de Paris ouvre une enquête. RTL vous le révèle ce midi. Bonjour Julie Brault.
Bonjour.
Qu'est-ce qui s'est passé exactement sur ce portail ENT ?
Eh bien, des élèves, parents et professeurs ont reçu un message sur leur compte ENT, un message titré « Explosion demain, bande de mécréants ». Au lycée Diderot à Carvin, dans le Pas-de-Calais, c'est une élève qui alerte ses professeurs lundi soir. Le message indique que les classes sont minées de C4. Hélène Tétard est proviseure adjointe, elle ordonne la fermeture immédiate du lycée.
Le chef d'établissement a pris contact avec les services de police, avec les services du rectorat. On s'est présenté devant l'établissement le matin et les forces de l'ordre étaient là, donc on est reparti. C'est plutôt inquiétant qu'effectivement ce genre de message puisse transiter par ce type de boîte de messagerie.
Partout en France, les collèges et lycées ciblés ont aussi été évacués. Aucune trace d'explosif n'a été retrouvée. Selon le ministère de l'Éducation nationale, ces menaces d'attentats ont été envoyées via des comptes ENT piratés.
Merci beaucoup Julie Bro. On sait qui est derrière ce piratage, Julie ?
Eh bien, ce que l'on sait, c'est que même si certains messages ont été envoyés depuis les comptes des élèves, ce sont bien des hackers qui en sont à l'origine. Il s'agit donc de les identifier. Pour l'heure, aucune menace terroriste réelle n'est détectée. La section cyber du parquet de Paris a ouvert une enquête pour menace de mort et atteinte à un système de traitement automatisé de données.
Merci.
RTL Midi.
C'est un rapport accablant sur la gestion de la crise Covid au plus haut sommet de l'État que révèlent aujourd'hui nos confrères du Parisien.
Rapport de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, qui a interrogé 375 personnes pour comprendre les failles et les manquements au plus fort de la crise. Virginie Garin, le premier des fiascos, c'est la cellule de pilotage.
Voilà, la crise éclate début 2020. Alors, il existe bien un centre de pilotage, le Corus, qui est activé, mais il n'y a que 11 personnes, vite débordées. Des renforts arrivent, mais sans les compétences nécessaires, parler l'anglais, savoir analyser des datas. Et on découvre que le directeur de la santé au ministère, Jérôme Salomon, doit tout piloter lui-même, l'aspect scientifique, l'opérationnel. Une seule personne, dit le rapport, ne pouvait assurer seule toutes ces fonctions aussi lourdes.
Enfin, c'est ce qui peut paraître d'ailleurs incroyable, mais il y a des écueils que révèle ce rapport et la gestion catastrophique, par exemple, des masques.
Voilà, en janvier 2020, la France a détruit une partie de ses stocks, trop vieux, il faut en acheter. La cellule de santé publique France, chargée de le faire, est là encore sous-dimensionnée. Il faut acheter sur les marchés chinois, aller vite avant les autres, parler la langue. Il n'y a pas le bon personnel et quand le gouvernement embauche 50 personnes, la nouvelle équipe se dispute avec l'ancienne.
Autre problème soulevé à la lecture du rapport, c'est, et ça peut paraître incroyable, c'est que les EHPAD semblent avoir été complètement oubliés au départ.
Oui, dans les consignes données aux établissements, isoler les malades, porter le masque, visiblement, il n'y a rien de précis concernant les EHPAD au départ. Et puis ensuite, ça devient incompréhensible. 35 consignes parfois contradictoires. Ce rapport confirme donc une gestion de crise chaotique début 2020. Il y a d'ailleurs une enquête de justice et pour l'instant, seule l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a été mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui.
Ça fait peur quand même, mais ce rapport, c'est Le Parisien qui l'a sorti ce matin et évidemment le ministre devait le mettre au fond d'un tiroir, j'imagine.
Il avait été commandé par l'ancien ministre M. Véran et on n'a pas la confirmation pour l'instant de ce rapport.
Et le fait qu'il soit rendu public, c'est peut-être une épine de plus pour le gouvernement qui faisait, on le rappelle, sa rentrée ce matin. Macron, Emmanuel Macron, le président de la République, appelle ses troupes à l'audace quand Elisabeth Borne leur demande de résister au vent contraire. Et c'est vrai que cette rentrée s'annonce chargée, musclée, avec ce très sensible dossier de la réforme des retraites. On y reviendra longuement après le journal.
Une bonne nouvelle maintenant sur le front économique. Enfin, bonne nouvelle relative.
Oui, l'inflation marque enfin le pas. Bonjour Arnaud Touche.
Bonjour.
Elle s'envolait depuis des mois, mais on observe enfin un léger recul, même si les prix continuent d'augmenter. Ils le font un peu moins vite, 5,9% en décembre.
Oui, et l'inflation a augmenté de 6,2% en novembre. L'inflation en décembre a donc été légèrement moins importante. Ce ralentissement s'explique notamment grâce au prix de l'énergie qui était en baisse en fin d'année et cela concerne majoritairement le gaz et l'électricité. Mais sur un an, eh bien, l'inflation est bien présente. Les prix de l'énergie ont bondi de 15%, les produits alimentaires de 12%, plus 5% pour les biens manufacturés et plus 3% pour les services. Ce léger ralentissement de l'inflation en décembre reste tout de même une bonne nouvelle.
Mais bonne nouvelle relative, on le disait à plus d'un titre, car ce reflux ne devrait pas durer, Arnaud.
Hélas, l'inflation devrait à nouveau repartir à la hausse dès ce mois-ci, voire le mois prochain, ça s'explique assez facilement. Les prix du gaz et l'électricité augmentent de 15% sur la facture des particuliers, même si la hausse est contenue. Cela va toucher le pouvoir d'achat des ménages, fin de la ristourne gouvernementale de 10 centimes à la pompe et hausse du prix des carburants. Enfin, l'indice des prix à la consommation calculé par l'INSEE devrait atteindre un pic à 7% ce début d'année, avant de reculer, on l'espère, à partir du mois de mars.
Arnaud Touche du service économique de RTL.
Le marché automobile français, lui, ne se porte pas bien. Les ventes ont baissé de près de 8% l'an dernier. À Évreux, les concessionnaires doivent en plus affronter de mystérieux incendies.
Deux concessions de la ville de Leurs, oui, ont été incendiées à deux reprises. D'abord la nuit de la Saint-Sylvestre, puis une nouvelle fois dans la nuit de lundi à mardi, Valentin Boisset.
Absolument, c'est une mystérieuse série d'incendies. Imaginez 96 véhicules brûlés en plusieurs nuits dans deux concessions. Alors les autorités sont inquiètes hein, car ces incendies se sont étalés sur plusieurs nuits. Au garage Citroën d'Évreux où je me trouve, le patron l'assure, une personne est entrée sur le site vers 2h30 du matin. Elle a mis le feu à une ou deux voitures. Une enquête a donc été ouverte, le parquet l'assure. C'est la première fois qu'il est confronté à un événement de la sorte sur la zone. Alors les concessions des alentours sont invitées à rehausser la sécurité de leur site. Parmi les patrons des concessions que j'ai pu apercevoir ce matin, aucun ne veut faire de commentaires. Un peu débordé hein, entre les procédures d'assurance et la présence policière, car ce matin, la gendarmerie est présente, par exemple au garage Peugeot de Normanville, pour surveiller les environs.
Valentin Boisset à Évreux pour RTL.
RTL Midi.
Aux États-Unis, à présent, inquiétude autour des intoxications au cannabis qui se multiplient chez les très jeunes enfants.
Oui, on parle ici de petits de 5 ans ou moins, de plus en plus nombreux à être pris en charge, non pas après avoir fumé ou respiré la fumée de leurs parents, Brice Dugény, mais parce qu'ils ont mangé un produit au cannabis.
Absolument, dans les 18 États américains qui autorisent la consommation récréative de cannabis, on trouve dans les magasins des aliments à base de cannabis, des gâteaux, des cookies, des bonbons, des barres chocolatées. Difficile de résister pour des enfants qui, à la maison, ne font pas la différence avec des aliments plus classiques. Le nombre de cas d'intoxication a explosé. Juste pour vous donner la proportion, il y a eu 200 accidents en 2017, plus de 3000 en 2021, une augmentation de 1300% en 4 ans. Alors ça entraîne des cas de vomissement, de dépression du système nerveux et même quelques cas de coma. Parmi les 150 enfants qui ont été admis en soins intensifs, aucun décès n'a pour l'instant été constaté. Les auteurs de l'étude préconisent quand même d'améliorer la prévention, d'abord en imposant aux fabricants des règles plus strictes sur les emballages pour les distinguer des autres aliments, mais aussi en éveillant les consciences des parents et les invitant à ranger ces produits dans des placards hors de la portée des enfants, car 9 intoxications sur 10 ont lieu au sein du domicile familial.
Merci beaucoup Brice Dugény.
Le football à présent et l'avenir de Didier Deschamps en question.
Car officiellement les Bleus n'ont plus de sélectionneur depuis le 1er janvier. Le contrat de Didier Deschamps avec la Fédération Française de Football s'est en effet achevé fin 2022. Alors on le sait, Noël Le Graët l'avait dit, hein, le sélectionneur finaliste du dernier mondial pourra continuer l'aventure s'il le souhaite. A priori c'est le cas, Baptiste Durieux. La question en fait c'est comment et pour combien de temps ?
Exactement, Didier Deschamps aimerait être prolongé jusqu'à la prochaine Coupe du Monde en 2026, alors que Noël Le Graët ne souhaiterait pas aller au-delà de l'Euro 2024. Il y a aussi la question du confort et des conditions de travail qui est sur la table. Quelques mesures d'économie mises en place par les services administratifs de la Fédération, notamment pendant le Mondial, ont parfois crispé les joueurs et le staff. Un exemple, le vol retour du Qatar à Paris. Faute de place suffisante, certains joueurs ont voyagé en classe économique pendant que d'autres bleus étaient en classe affaires.
C'est terrible ce que vous dites.
Non mais le problème c'est qu'ils n'étaient pas tous en classe affaires et circule l'inverse aurait été...
Quel malheur.
Tous en classe économique ça aurait été très bien aussi. Le problème c'est qu'il n'y avait pas d'équité. En tout cas c'est pas un dossier qui est déterminant mais il pèse légèrement évidemment sur les négociations de la prolongation de Didier Deschamps qui veut performer dans la tranquillité et se concentrer uniquement sur sa mission de sélectionneur. En tout cas les deux hommes se sont vus jeudi dernier avec la volonté commune de continuer l'aventure ensemble.
Merci Baptiste. Lionel Messi lui est de retour à l'entraînement au PSG ce matin. Il a été accueilli d'ailleurs par une aide d'honneur formée par ses coéquipiers qui l'ont longuement applaudi, vous l'entendez, le champion du monde tout juste rentré d'Argentine où il a célébré son titre avant de prendre quelques jours de repos. Les Parisiens, on le rappelle, affronteront Châteauroux vendredi en 32e de finale de la Coupe de France.
C'est vrai que Messi à Châteauroux...
Alors c'est pas sûr qu'il joue Pascal.
Mais il jouera pas d'ailleurs, mais c'est vrai qu'après une finale de Coupe du Monde être
non, mais
à Châteauroux...
Vous embarrassez pas d'attendre la feuille de
match,
vous avez
raison. Ah non, mais ça, je vous dis qu'il ne jouera pas. Il vient d'arriver, donc ils ne prendront pas le risque. Mais passer de la finale de la Coupe du Monde à un match à Châteauroux, j'ai rien contre Châteauroux, bien sûr.
Mais il n'y sera pas.
Il n'y sera pas. D'accord. Ça aurait été difficile. Bonjour Brice Dugény. Tu vas bien ?
Il vient de parler. Parce que... Bon, Peggy Broch, on va remettre un peu d'ordre dans ce studio. Si
bonjour Pascal Pro. Bon.
Quel temps fait-il ? C'est agité ou pas ?
Mais restez, Brice, mais restez jusqu'au bout. Mais non, mais attendez, vous pouvez rester jusqu'au bout. Allez-y.
On y va pour la météo. Allez, un temps perturbé. Oui, alors faiblement perturbé parce que on a juste quelques pluies. On a surtout beaucoup de nuages sur une bonne moitié nord du pays. Et les pluies vont gagner la Bretagne jusqu'au Poitou en allant vers le nord de l'Alsace avec du vent également. Peut-être quelques trouées sur le nord, mais l'extrême nord en fin d'après-midi. Le vent est bien présent sur les bords de Manche également. Et puis, plus au sud, entre la Gironde et la Franche-Comté. Là, c'est un temps gris, mais sec. Et pour avoir du soleil, il faut être entre les Pyrénées-Atlantiques et les Alpes, où là, il fait beau, avec un peu de vent sur le Languedoc-Roussillon, mais rien de bien méchant. Tout ça sous des températures qui sont encore très douces, hein, 19 à Perpignan, 17 degrés à Bastia, 16 à Toulon, 15 à Rennes, 14 à Marseille, 13 à Cherbourg, 11 à Dijon et 10 à Grenoble.
Merci beaucoup, Peggy.
On va marquer une pause. William Galibert est là également. Les retraites, ça fait juste 6 ans qu'on en parle. On attend le projet.
Plus que ça, même.
Oui, mais avec Emmanuel Macron, avec Macron, ça fait 6 ans. On attend toujours.
Mais ça va arriver, là. Ça y est.
Mais nous le souhaitons.
C'est pour mardi.
À tout de suite.
Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 32-10.
50 centimes la minute.
RTL Midi. Pascal Praud et Céline Landreau.
C'est la rentrée, on l'a dit, pour le gouvernement et elle s'annonce musclée en ce début janvier avec, pour commencer l'année, le très sensible dossier de la réforme des retraites. Serpent de mer qui sera présenté la semaine prochaine pour en parler avec nous. Deux membres du service politique d'RTL, Thomas Després et William Galibert. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Thomas, vous avez suivi la rentrée gouvernementale ce matin. Vous êtes en direct de l'Élysée actuellement. L'exécutif sait que la trêve des confiseurs est bien terminée.
Oui, ce matin, le message, il était très clair autour de la table de ce premier conseil. Pour affronter les nombreux champs de la rentrée, il va falloir rester soudé. Elisabeth Borne l'a demandé à ses ministres. Il faudra résister au vent contraire des bourrasques venues des nombreuses crises que traverse actuellement l'exécutif, la préparation de la réforme des retraites, bien sûr, mais aussi la crise de l'énergie qui maintenant touche nos boulangers. Ce matin, Emmanuel Macron a demandé à ses ministres de l'écoute des préoccupations des Français, mais aussi de l'audace. Selon nos informations, il leur a également demander de la bienveillance et une bonne dose d'adaptation. Il ne faut pas céder au déclinisme, a ajouté le président. Une note d'optimisme donc pour cette rentrée bien sombre. Le chef de l'État qui a dénoncé, je cite, des professionnels du malheur qui constituent la conjuration des esprits tristes, fin de citation. Des ministres actuellement dans la salle des fêtes de l'Élysée autour du président pour leur déjeuner de rentrée.
William Galibert, vous êtes en studio avec nous. Alors derrière la photo, Thomas le disait, il y a cette actualité est très chargée. On prête à Jacques Chirac, au risque d'être un petit peu vulgaire, cette maxime qui voudrait que les emmerdes volent en escadrille. Bon, là, c'est clairement le cas.
Oui. Là, on peut le dire comme ça. Je vous cite pas tout, mais la réforme des retraites, la crise de l'hôpital avec un nouveau plan santé qui va venir et avec des premières annonces dès vendredi, le projet de loi immigration, le projet de loi nucléaire. Dans les jours, dans les semaines à venir, vous n'avez que du lourd, que des sujets qui sont extrêmement inflammables. Ça, c'est ce qui est prévu. Et vous y rajoutez tout ce qui n'est pas prévu et qui peut toujours vous tomber sur le coin du nez. Donc c'est effectivement une rentrée difficile, d'autant que ça se fait dans une ambiance d'opposition, une confrontation perpétuelle. On le voit à la fois avec les partenaires sociaux, avec les discussions sur les retraites, et à la fois sur le plan politique avec les oppositions. Oui, c'est du,
oui,
c'est
puis on
très
apprend,
lourd pour la rentrée.
On apprend par exemple ce matin que la crise Covid a été gérée n'importe comment. Donc il y a, par rapport à ceux qui nous gouvernent, une défiance XXL qui se met en place. Mais sur la réforme des retraites, qui est d'accord avec cette réforme aujourd'hui? J'ai l'impression... personne.
Il y a un jeu de poker menteur avec les élus, les républicains, qui sur le fond sont quasiment d'accord avec le...
Non mais je parlais des partenaires sociaux.
Ah, personne.
Donc c'est-à-dire que c'est une réforme, ça fait plus de 6 ans qu'on négocie avec divers interlocuteurs et on n'arrive pas ensemble en France, avec les partenaires sociaux, à se mettre d'accord sur
et
un
puis,
texte.
Ce sont des négociations un peu étranges, façon poker menteur, avec un gouvernement qui ne montre pas ses cartes. Donc,
mais comment est-il possible en France, avec, je le répète, les partenaires sociaux, de ne pas, alors que l'Allemagne fait ça très bien depuis des années, à ne pas trouver un texte sur lequel on soit d'accord? C'est sidérant.
Alors l'argument, c'est de dire... c'était dans le programme présidentiel, le président a été élu pour ça, et en plus, c'est ce que nous dit le gouvernement, du côté des Républicains, notamment à droite, politiquement, il y a une demande pour cette réforme, et qui n'est pas entièrement rejetée par les Français, même si elle l'est par les partenaires sociaux.
C'est ça l'argument. Bute sur l'âge, nous sommes d'accord, le principal écueil, c'est l'âge, 65 ans, 64 ans.
au niveau syndical, c'est l'âge. On ne veut pas du report. La CFDT pourrait faire des concessions sur d'autres points, mais le report de l'âge, c'est niet. Et ça, elle l'a répété. Politiquement, par contre, il y a plus d'ouverture, puisque à droite, il y a des plans pour 64 ans, notamment.
Vous le disiez, les retraites, c'est dans le programme du président. Ce qui marque sur tous ces dossiers, c'est qu'il est omniprésent, Emmanuel Macron.
Oui, et c'est bien beau la photo de tous les ministres qui arrivent tout sourire avec leur dossier sous le bras, mais le problème c'est que derrière vous avez le patron qui prend tous les dossiers, qui les garde pour lui-même. Ça va être le cas, là il va recevoir les boulangers demain, et ça va être le cas sur la santé. On aurait pu attendre peut-être que ce soit le ministre de la Santé qui annonce des premières mesures, mais non, ça sera le président de la République vendredi. Et c'est d'autant plus difficile dans ces conditions-là de faire exister un collectif gouvernemental quand finalement vous avez très peu de ministres qui peuvent exister. Il y en a quoi, 42 ou 43 aujourd'hui, et je ne pense pas que vous soyez capable d'en citer plus de 5 ou 6 globalement.
On n'a pas le temps de faire le test, malheureusement, William.
Je vous le garde pour une prochaine.
Mais je vous promets qu'on le fera un jour. Merci beaucoup, William Galibert et Thomas Després.
Dans une seconde, on va parler de la télévision et du programme de M6 ce soir. Est-ce que vous voulez être mon associé ?
Mais moi, c'est un plaisir depuis la fin août, Pascal, vous le savez.
Il est 12h50, nous revenons dans une seconde.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL. Laissez-vous tenter, midi.
La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi, et aujourd'hui on parle donc télévision, car ce soir sur M6...
Pour cette troisième saison de Qui veut être mon associé, les entrepreneurs vont venir tenter de changer leur destin.
Je demande 180 000 euros contre 18% de la start-up.
D'accord.
50 000 euros contre 10%.
800 000 euros contre 10% de notre capital.
À 21h10, donc ce soir sur M6, ce sera le début de la troisième saison de Qui veut être mon associé, l'occasion pour des entrepreneurs de lever des fonds en s'associant à d'autres entrepreneurs un peu plus chevronnés, et parmi eux, Jean-Pierre Nadir. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de Fairmove.fr, premier portail de distribution de voyages dédié au tourisme responsable, et vous faites partie du jury de cette émission. Vous êtes donc face à des candidats qui vous demandent très clairement d'investir à leur côté pour développer leur projet. D'abord, qu'est-ce qui vous pousse à dire oui ?
À un projet ?
Bah ouais.
Ou à l'émission ?
Parce... Non, surtout au projet.
Alors, à un projet, donc, alors, si vous voulez, c'est quand même une alchimie assez complexe, hein, mais qu'on peut résumer autour de quatre points. La première, donc, c'est évidemment le produit qui est présenté et le marché, donc, qui nous est adressé. Donc, il y a des choses auxquelles on croit et des choses auxquelles on croit moins. La deuxième, immédiatement, donc, c'est l'enthousiasme et c'est les compétences présumées, donc, ou ressenties des gens qui présentent ce projet. C'est-à-dire que les fondateurs sont évidemment l'élément essentiel. D'ailleurs, on a vu de dire que ce qui compte, donc, c'est le jockey plus que le cheval. Et donc, quand on a les deux, c'est évidemment donc une meilleure alchimie. La troisième chose, donc, c'est une projection de est-ce que ces gens, est-ce que ce marché, est-ce que ces gens auront l'occasion et la possibilité de développer ce marché. C'est-à-dire que souvent, l'ambition peut être trop élevée par rapport à la réalité qui est la vôtre. C'est-à-dire que si vous n'avez ni les moyens donc financiers ni le réseau pour développer un projet, même gagnant, alors vous avez juste ouvert la voie pour les autres. Et donc, il faut pouvoir mesurer. Donc, et quatrièmement, c'est comment on va accompagner ces gens. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter au-delà de l'argent. Donc, comment on va pouvoir donc les mentorer et améliorer évidemment donc le projet initial.
Bon, les banques sont trop frileuses aujourd'hui.
Non, moi je dirais que la BPI donc a fait un très gros boulot, et qu'en France, en tous les cas, donc on est un des pays où on trouve plus facilement de l'argent. Moi j'ai connu, si vous voulez, moi j'ai 58 ans bientôt, et donc je me suis lancé à 21 ans. Donc moi je suis vraiment un start-upper bien avant l'heure, et à l'époque on trouvait pas d'argent. Et moi il fallait 3000 ans. D'ailleurs, moi je mentais tout le temps sur mon âge, je disais que j'avais 28 ans parce que 21 ans personne ne voulait.
Ça faisait pas sérieux.
Oui, je pouvais même pas ouvrir un compte en banque. Donc voilà, donc l'époque a bien changé.
Donc faut être menteur en fait pour être un bon entrepreneur.
Non, il faut savoir anticiper. En l'occurrence, j'ai eu 28 ans un jour.
Non, mais on sent même dans votre énergie, dans la manière dont vous parlez, au fond, même si je ne vous connaissais pas, que vous veniez à ce micro, on me dirait qu'est-ce qu'il fait ? Je pourrais imaginer que vous soyez chef d'entreprise.
Il y a ça.
Oui, alors,
chanteur,
mais il faut sans doute cette énergie, cette oui. psychologie, ce goût du risque.
Oui, vous avez raison. Quand on me demande c'est quoi la principale qualité pour entreprendre, je réponds toujours le courage. Au-delà de tout le reste, c'est-à-dire l'intelligence, l'argent, le produit, la créativité, l'animation des hommes, parce que c'est complexe, c'est une alchimie assez complexe. Hein,
oui, mais vous le vivez pas comme du courage.
Comment ?
Vous ne le vivez pas forcément comme du courage. Pour non, vous, ça vous est naturel.
Vous avez raison, c'est-à-dire que en fait, on se lève chaque matin, donc avec l'idée que on va forcément réussir. Et quand même, quand c'est compliqué, on va trouver les voies de la réussite.
C'est pas la première année que vous faites cette émission. Non. Est-ce que vous voyez les profils des entrepreneurs évoluer ? Vous-même, vous l'avez été il y a quelques années avant d'avoir 28 ans, on l'a compris. Est-ce que les entrepreneurs d'aujourd'hui sont les mêmes que ceux d'hier ?
Non, ils sont bien meilleurs que nous. Donc aujourd'hui, non mais très franchement, c'est-à-dire que moi je suis...
Ça c'est très politiquement correct.
C'est vrai, mais pourtant, si tu veux, c'est pas mon attitude.
On se tutoie déjà, ça y est.
Excusez-moi, monsieur.
Non mais pas du tout, mais ça c'est le chef d'entreprise.
Oui, moi j'ai un contact direct, je vous trouve sympathique, donc tout de suite, effectivement, je crée les conditions d'une relation positive.
Et en plus, vous voulez nous séduire. Je te trouve sympathique, je te tutoie, vous êtes très fort.
La principale qualité après le courage, c'est l'empathie. C'est-à-dire qu'il faut créer le désir, il faut que les gens aient envie de réussir. Vous devez avoir envie de réussir. Mais ce qui est le plus important, c'est de donner envie aux autres de votre réussite. Mmh. Voilà. Et c'est comme ça qu'on crée un climat très favorable. Et donc, je réponds à la question, pourquoi ils sont meilleurs que nous ? Parce que, d'abord, ils savent pitcher. Aujourd'hui, ils arrivent tous avec un discours très construit. Moi, à leur époque, j'avais absolument pas une capacité d'allocution comme celle que je vois chez les entrepreneurs d'aujourd'hui, chez les fondateurs d'aujourd'hui. Deuxième élément, donc, ils ont des connaissances, donc, un peu dans tous les domaines, marketing, gestion, etc., qu'on n'avait pas du tout à l'époque.
Là, ces candidats, ils vous demandent d'investir, de vous associer avec eux pour accompagner leur projet. On l'a dit, ce n'est pas la première fois que vous participez à l'émission. Vous avez donc investi dans des projets déjà. Oui. Comment ça marche ensuite, une fois que l'émission s'arrête ?
Très bonne question. Donc d'abord, le deal peut foirer. Parce qu'effectivement, donc après l'émission, il y a parfois des gens qui ont un peu survendu, comme on dirait Pascal, donc leur projet. Et donc, quand on fait ce qu'on appelle les new diligence, c'est-à-dire qu'on rentre dans le projet plus sérieusement, et ben on se rend compte que finalement, on n'est pas fait pour aller ensemble. Et donc, il y a des projets qui n'aboutissent pas. Je dirais que c'est 30% à peu près des projets. Donc 70% sont réalisés. Et moi, ensuite, donc je m'associe avec l'entrepreneur. C'est-à-dire que je rentre dans le détail. Tous les mois, j'ai un reporting, j'appelle régulièrement, je mets mon réseau à disposition et puis j'apporte aussi des idées parce que je pense qu'il faut qu'on soit aussi présent dans le produit lui-même.
Et vous avez parfois besoin d'aide. Je sais que vous êtes donc le fondateur de Fairmove, je le rappelle, .fr, mais vous avez fait appel, je crois, à une société d'événements, WMH Project, c'est bien ça ? WMH Project, qui peut vous aider justement à aller plus loin dans vos projets. Donc vous êtes aidé au SLI, vous n'êtes pas seul.
Ah ben, je suis pas sûr que j'ai une équipe de 10 personnes donc sur Fairmove avec des associés donc Arthur et Corinne donc de très bon niveau et puis au-delà de ça effectivement donc il y a toujours un réseau entrepreneurial qui vous accompagne et ce réseau j'en fais bénéficier justement les candidats de l'émission chez qui j'investis.
Eh ben écoutez, merci.
Qui veut être mon associé ? C'est ce soir la saison 3 à 21h10 sur M6 et on vous retrouvera dans les fauteuils du jury Jean-Pierre Nadir. Merci beaucoup.
À droite. Au fond.
S'il y a des chefs d'entreprise qui nous écoutent, des entrepreneurs qui nous écoutent, ils pourront évidemment réagir entre 13h et 14h30. À tout de suite.
RTL Midi.